Tamani, voici nos informations en français.
Vous écoutez bien sûr les programmes du studio Tamani, auditeurs, auditrices. Bonjour et bienvenue à la matinale. Voici les titres. L'insécurité reste inquiétante au centre du pays. Pourtant, des initiatives pour calmer les tensions se multiplient dans la région. L'arrestation de deux anciens ministres dans le cadre de l'affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires continue de défrayer la chronique. Si pour certains la procédure est légale, d'autres estiment qu'il y a un vice de forme. Notre dossier culturel vous présente le guitar, cet instrument de musique traditionnel à base de calebasse, autrefois très brisé dans les cérémonies de mariage en milieu Bambara, est en train de disparaître de nos jours. À la présentation, Mariam Maïga, Mamadou Ouattara assure la technique. Mais avant cette nouvelle, le Conseil de sécurité a renouvelé hier le régime de sanctions contre le Mali. La décision comporte l'interdiction de voyager et le gel des avoirs qui seront appliqués aux individus et aux entités pendant une année supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'au 31 août 2022. Une décision qui intervient après la publication d'un rapport de l'ONU qui dénonce l'augmentation de 25% des violations des droits de l'homme au Mali. Je vous le disais dans les titres, la tension ne retombe pas dans la zone de Massina, région de Ségou. Un chasseur d'onceau a été tué et plusieurs autres blessés suite à un affrontement avec des groupes djihadistes. L'information est rapportée par un responsable de la milice de chasseurs présente dans la zone. Pendant ce temps, des localités restent toujours assiégées par des présumés terroristes, empêchant les populations de faire leurs travaux champêtres. Le point avec Mamadou Samasekou.
Tout est parti de l'interception d'un camion suspect par les chasseurs de Béwani, explique le chef de la milice de Kemasina. Il ajoute que le véhicule contenait des balles de chaussures et plusieurs centaines de bidons de carburant. Selon lui, c'est en voulant ramener le véhicule à leur base à Kemasina qu'ils ont été pris en embuscade par des présumés djihadistes. Les échanges de tirs qui ont duré deux heures de temps aurait fait un mort et cinq blessés dans les rangs des chasseurs. Une version contredite par une source militaire. Cette dernière affirme que les militaires ont surpris les chasseurs en train de vider le contenu d'un véhicule particulier. Les assaillants ont pris la fuite après des échanges de tirs avec les FAMA, rapporte la source militaire. La situation reste tendue dans la zone depuis plusieurs semaines. À Farabougou, localité qui a été longtemps assiégée, les populations manquent de plusieurs produits de première nécessité depuis plus d'un mois, signalent des sources locales. Non loin de là, la localité d'Ogofri est également sous menace djihadiste. C'est au péril de leur vie que des gens se rendent à Nyono pour s'approvisionner, témoigne des habitants.
Un reportage signé Mamadou Samasekou. Toujours sur le même sujet, une rencontre a réuni les populations locales et la milice de chasseurs d'Ana Massagou dimanche dernier à Badiangara. Objectif, apaiser les tensions et contribuer à la réconciliation et la cohésion sociale dans les cercles de Bankas, Douanzan, Koro et Badiangara. Ces localités sont confrontées à une insécurité grandissante depuis 2015 et subissent les effets collatéraux des affrontements entre milices chasseurs sur le groupe djihadiste. Notre correspondant à Badiangara, Adama Djigiba, a tendu son micro à quelques participants à la fin de la rencontre.
Effectivement, la rencontre s'est bien déroulée, de l'entente, de la cohésion, parce que réellement, on était ébahis de la salle, très humide, tout le monde était très satisfait. Chacun des intervenants des forces vives, des différentes structures administratives, ont donné leur point de vue par rapport à la crise sécuritaire, par rapport à leur rôle de responsabilité, par rapport à tout ce qu'il y a lieu de faire avec l'ensemble des acteurs sur le terrain, et tout le monde était satisfait.
Le chef d'état-major a confirmé que la RN15 ne serait pas bloquée. Quand il y a eu blocage, il a donné des raisons. C'est explicable, nous avons bien compris, nous lui remercions pour son engagement, pour son courage, pour qu'on puisse sortir de cette insécurité.
Que le gouverneur rapporte au plus haut niveau, prenne en compte le Dana Ambassadou, notre mouvement, comme un partenaire privilégié de l'État.
Rejoignez la communauté Studio Tamani en partageant ou en laissant vos commentaires sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. Retrouvons Arkia Touré pour parler de ce rapport de Carter Centre qui parle du qui est publié le jeudi dernier. Ce rapport qui parle de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Dans le document de 19 pages couvrant la période de janvier à juillet 2021, des changements et des coups d'arrêt ont été constatés indique le document. Selon l'observateur indépendant qui s'est dit préoccupé par la méfiance croissante de la population à l'égard de l'accord, il souligne ici des reculs dans le processus.
Des événements particuliers ont contribué à freiner l'élan de la relance de la mise en œuvre de l'accord, affirme le Centre Carter. Il s'agit de l'assassinat le 13 avril du président en exercice de la coordination des mouvements de l'Azawad, Sidi Ibrahim Ould Sidat, et le nouveau coup d'État le 24 mai. L'observateur estime aussi que la méfiance croissante de la population à l'égard de l'accord est également préoccupante. Le rapport souligne cependant des étapes dans la bonne direction en mettant l'accent sur un dialogue positif entre les parties prenantes, mais aussi la tenue du comité de suivi de l'accord CSA à Kidal en février et à Kay en mars. Aussi, il note la création par les parties du G5, un groupe de travail qui réunit le ministre de la Réconciliation et les quatre autres ministres issus des mouvements armés. Pour ainsi donner un souffle nouveau au processus, l'observateur indépendant recommande l'adoption d'un plan pour le processus des DDR et l'application de la politique nationale de réparation proposée par la commission Vérité, Justice et réconciliation. Au niveau politique, il encourage la révision constitutionnelle pour inscrire des dispositions clés de l'accord dans les textes et les institutions nationales.
Parlons à présent de cette affaire qui continue de défrayer la chronique. La procédure d'arrêt de Soumy Loubobé Maïga et de Mme Boiré Filet Sissoko continue de diviser les praticiens de droit et l'opinion publique au Mali. Si pour les techniciens de droit, la procédure de l'incarcération de ces deux anciens ministres ne souffre d'aucune anomalie procédurale, d'autres voix restent prudentes quant à la conformité de cette interpellation en l'absence d'une haute cour de justice. Notre reporter Moussa Malé Sissoko a interrogé les praticiens des droits sur la question.
Pour Maître Amadou Tchéoulé Diarra, universitaire et avocat au barreau malien, la Cour suprême peut prendre en charge les infractions commises par les présumés coupables dans l'affaire dite d'achat de l'avion présidentiel.
Le protocole additionnel de la CEDEAO date de décembre de 2001 et ce protocole précise que, en cas d'absence de juridiction spéciale, le présent protocole additionnel donne compétence aux organes judiciaires de droit civil ou droit commun. Que ce soit devant la Haute Cour de justice, que ce soit devant en fait une juridiction militaire, mais que ce soit devant la Cour suprême, si les droits de la défense sont respectés, je pense qu'il n'y a pas de problème.
Cet avis est aussi partagé par d'autres enseignants-chercheurs de l'Université de Bamako. Docteur Alain Nyangali soutient que la procédure judiciaire entamée par la Cour suprême ne souffre d'aucune anomalie. Pour ce juriste, le procureur général prie la Cour suprême à compétence de veiller pour qu'aucune infraction ne reste impunie.
En principe, la poursuite n'appartient pas à la Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice est instituée pour statuer, juger, condamner. Si la poursuite doit être effectuée, elle ne peut l'être que sous la coupole du procureur général de la Cour suprême. Lui seul est habilité. Et la compétence, effectivement, des procureurs, c'est de faire en sorte qu'aucune infraction ne reste impunie.
Toutefois, pour l'Association malienne des procureurs et poursuivants, la Cour suprême n'est pas habilitée à rouvrir ce dossier classé sans suite en l'absence de la Haute Cour de justice.
Un sujet signé Moussa Malé Sissoko. Le 31 août de chaque année est célébrée la Journée internationale du blog. Ce phénomène, bien que nouveau, est de plus en plus utilisé dans le pays pour la publication quotidienne ou périodique d'articles sur un sujet particulier. Au Mali, la communauté des blogueurs compte une centaine de membres. Comment se porte le secteur? Quelles sont les difficultés que rencontrent les blogueurs? Abdoulaye Guindo, président de la communauté des blogueurs du Mali, donne un blog et répond à ces questions au micro de Hamsetou Gogo Touré.
En 2018, on a pu avoir, avec l'appui d'un bailleur étranger, une plateforme qui fédère tous les blogueurs du Mali, notamment la plateforme Bembéré, sur laquelle les blogueurs du Mali s'expriment. Et nous sommes aujourd'hui à plus de 400 contributions, c'est-à-dire 400 jeunes ont au moins écrit un article. Nous sommes à plus de 3000 articles publiés, à plus de 2000 vidéos publiées, qui ont généré environ 21 millions de vues.
Aujourd'hui, quelles sont les principales difficultés que rencontrent les blogueurs maliens?
Il y a d'abord la reconnaissance du statut du blogueur, qui n'est pas encore reconnu par nos dirigeants. Il y a aussi la difficulté à accéder à Internet. Quand vous savez que c'est sur Internet que nous travaillons, il y a aussi la cherté d'Internet parce que les jeunes, pour la plupart, sont des étudiants ou des diplômés sans emploi qui viennent dans le blogging pour se faire entendre. Donc, et souvent, à cause des situations politiques, on assiste à la censure d'Internet.
En venant maintenant à notre dossier du jour, le guitar est un instrument traditionnel. Il est souvent utilisé lors des cérémonies de mariage dans certaines communautés, notamment chez les Bambara. Il est aussi joué par des artistes musiciens. Avec la modernité, le guitar a tendance à disparaître dans nos sociétés, constatent des traditionnalistes. Le reportage de Habibatou Christine Dara de retour de Markala dans la région de Ségou.
Vous entendez ici une partie de guitare jouée par des jeunes filles. Instrument de musique traditionnel en milieu Bambara. Le guitar est joué pour accompagner la nouvelle mariée chez son époux. Bama Sanfane, conseillère traditionnelle à Markala, nous explique le sens de cette tradition.
Le guitar est un moyen de divertissement des jeunes. Il n'a pas une signification ou une importance particulière. Supposons que le jour de ton mariage, tu ne vois aucune fille de ta génération ou tes amis à tes côtés. Tu te sentiras seul. Le guitar est tout simplement un instrument pour donner de la joie à la nouvelle mariée.
Le guitar a tendance à disparaître de nos jours sous l'influence de la modernité. Mais à Markala, des jeunes filles restent encore attachées au guitar.
Les jeunes filles des mêmes guitars, c'est-à-dire des mêmes générations, jouent les guitars les jours du mariage de leurs camarades.
L'importance du guitar, c'est qu'on se réunit entre filles d'une même génération et on joue le guitar pour qu'on sache que c'est une nouvelle mariée qui va quitter une famille pour une autre.
Selon des traditionnalistes, on retrouve le guitar dans des terroirs autres que le milieu Bambara. Mais il déplore que l'instrument soit de plus en plus méconnu par les jeunes. Habibatou Christine Dra, de retour de Markala pour Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Direction Sikasso, où un programme dénommé Right to Grow ou Droit de Grandir a été lancé le 27 août dernier. Ce projet d'une durée de 5 ans vise à renforcer les politiques nutritionnelles de développement afin de réduire la malnutrition dans la région de Sikasso. Le projet est financé par l'ambassade des Pays-Bas au Mali. Il sera mis en œuvre dans la région de Sikasso et de Kuchala par l'ONG Amadecom. Plus de 90 ménages de déplacés de la crise sécuritaire malienne ont bénéficié chacun de 50 kilos de riz le samedi dernier à Kuchala. Selon les responsables de l'association Bilangalama, ce geste vise à contribuer à la prise en charge alimentaire des foyers de déplacés de la localité. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ne décrochez pas car l'info continue. La journée internationale de prévention des overdoses est célébrée le 31 août. Pour des médecins, elle survient après la prise d'une substance susceptible de faire perdre la conscience ou lorsque le consommateur prend une dose qui dépasse son seuil de tolérance. Dans la plupart des cas, ces spécialistes indiquent que l'overdose se traduit par une perte progressive de connaissance ou par un arrêt cardiaque. Au Mali, les cas d'overdose sont fréquents chez les jeunes. Suleiman Koulibaly est médecin psychiatre au CHU.G. Il répond aux questions de Aïssata Diarra.
Quand on dit survival, ça veut dire que quelque chose a été pris de l'extérieur pour être ingéré. Et après ingestion, cette chose a pu modifier l'équilibre physiologique de l'organisme.
Quels sont les symptômes de l'overdose?
Vous pouvez avoir une perturbation de la conscience. Au-delà de tout cela, ça peut progressivement aussi amener la personne à présenter un état de coma où la personne ne réagit pas du tout à son environnement. Une détresse respiratoire, un arrêt cardiaque peut survenir. Donc, la conséquence finale, ça peut être la mort.
L'overdose est causée par les stupéfiants ou par les médicaments?
Il s'agit d'un produit qui est consommé. Ça peut être une prescription médicale correcte chez une personne, mais que son organisme, on n'a pas tenu compte de certains bilans ou autres comme ça pour voir la capacité de l'organisme à pouvoir absorber ces médicaments. Et là, il peut faire une overdose. Peut-être que la dose qu'il était en train d'utiliser auparavant ne lui a plus fait effet. Alors, il a augmenté la dose et voilà, il est en overdose. Mais ça peut sortir de la prescription médicale. Ça, c'est le cas de la consommation des substances, par exemple. Soit le consommateur, à un moment donné, a fait une pause de consommation, l'organisme a commencé à être désensibilisé du médicament et quand il va reprendre là, ça trouve que l'organisme ne s'est pas habitué au médicament et là, il est très fréquent de voir les overdoses pendant ces périodes-là. Ça peut arriver que des problèmes sociaux que le consommateur peut avoir.
Alors comment secourir une personne qui fait overdose avant l'arrivée des médecins?
Si vous tombez sur une personne qui fait une overdose, vous allez tomber sur une personne qui est dans un état de détresse. Et là, votre secours, c'est de pouvoir acheminer cette personne aussi rapidement à un milieu de soins. Si vous trouvez que c'est de la détresse respiratoire, c'est de dégager la tête pour que la personne puisse respirer correctement, de la mettre dans la position de sécurité et d'appeler le secours.
Comment se fait la prise en charge?
Ces mesures-là vont être mises en place par les médecins. Généralement, c'est la médecine générale qui va l'accueillir, quoi, un service d'urgence.
Comment se fait la prévention?
D'autres, ils sont très anxieux. Dès qu'ils sont malades, ils vont penser à prendre beaucoup de médicaments pour guérir. Là, ça peut les amener en surdosage très rapidement. Il faut se référer toujours à un médecin qui sait vraiment dans le milieu de la consommation des drogues. Il faut avoir beaucoup de conseils des toxicodépendants. Il faut les accompagner de sorte qu'il n'y ait pas d'overdose, qu'il n'y ait pas de risque mortel.